Pourquoi tu cries ? Pourquoi tu cries ? Pourquoi tu cries ? Un podcast d'Approche Culture et Territoire.
Dans ce nouvel épisode de Pourquoi tu cries ? Approche Culture et Territoire part à la rencontre d'un média méditerranéen indépendant qui fête cette année ses 8 ans. Un média que j'ai participé à créer avec Leïla Berato, Hélène Bourgon et Justin de Gonzague. Aujourd'hui, je laisse la parole à Leïla et Justin pour raconter ce projet et partager leur Méditerranée.
Bonjour, alors je suis journaliste, réalisatrice et co-rédactrice en chef et co-fondatrice de 1538 Méditerranée.
Bonjour, à la base je suis documentariste et puis de fil en aiguille, je me suis porté sur l'anthropologie. Et donc j'ai mixé les deux approches. Parce que je pense que les deux pouvaient se convenir dans un temps long, dans un traitement inscrit dans un temps long.
Et c'est quoi justement la Méditerranée pour toi ? Ou les Méditerranées peut-être ?
Pour moi, la Méditerranée, aujourd'hui, si je dois prendre en 2025, c'est celle qui me frappe, c'est la Méditerranée des morts, quoi. C'est cette Méditerranée qui est en souffrance, qui souffre de la non-altérité, quoi, de la non-reconnaissance de ce, je dirais, ce peuple méditerranéen, quoi, et qui souffre d'un séparatisme. Mais c'est aussi la résistance, la résilience aussi, parce que on peut dire que c'est une aire géographique qui est en souffrance, mais en même temps qui bouillonne tout le temps parce que au niveau culinaire il y a quelque chose qui se passe, au niveau géographique il y a quelque chose qui se passe, au niveau des histoires communes, des faciès, des rituels, des danses, c'est un milieu qui a une potentialité incroyable et une humanité qui a toujours attiré le monde entier. Donc, c'est un équilibre. La Méditerranée, pour moi, c'est la vie et la mort en même temps. C'est sentir cette vie et cette mort dans la même fraction de seconde, quoi. Et toujours en ayant personnellement et en partageant ça, je pense, avec d'autres, que la Méditerranée puisse s'accomplir à nouveau. Parce que je pense qu'elle est. Elle a déjà été accomplie, elle a déjà eu des heures de gloire, des échanges profonds, des mariages, des épousailles, plein de choses, quoi, des collaborations. Donc voilà, on se bat aussi pour ça, on souffre avec les Palestiniens, on souffre avec les Syriens, on a l'œil sur les Turcs, sur les Grecs, sur les Crétois, sur les îles aussi, c'est magnifique. Il y a des environnements qui sont à la fois géographiques et humains qui posent question, qui nous traversent aussi. Et voilà, quoi. Pour moi, c'est tout ça, la Méditerranée.
Mon rapport à la Méditerranée, il a été façonné par le fait que quand je suis sortie de l'école de journalisme, je suis allée travailler à Alger comme correspondante pour des médias français. Et en fait, pendant plusieurs années en tant que correspondante, j'ai appris à connaître et à comprendre la société algérienne. Et quand on connaît un peu la société algérienne, de par son histoire, on comprend que c'est une société qui est différente dans sa manière de voir les choses d'une société européenne, occidentale. Alors moi, j'ai grandi en France, donc je comparais à la France, mais je pense que si on a grandi dans un pays comme l'Espagne, l'Angleterre ou l'Italie, on repère assez bien qu'il y a un mode de fonctionnement, un mode de pensée qui est différent. Et donc, ensuite, en étant en Algérie, j'ai beaucoup appris sur l'histoire commune des pays de la Méditerranée, sur l'histoire des sociétés, et je suis devenue très attachée parce que j'y ai trouvé du sens dans mon histoire familiale. Moi, je suis née d'une mère qui est née en Algérie et d'un père dont le père, donc mon grand-père, était lui né en Italie, et mes grands-parents sont venus en France au fil de leurs histoires personnelles. Et donc, ça faisait sens de comprendre pourquoi j'avais un héritage aussi, aussi diversifié et comment toutes ces histoires personnelles avaient fait que moi, je naisse et je grandisse à Grenoble, dans le sud de la France, en ayant des ancêtres qui venaient d'ailleurs. Pour moi, la Méditerranée, aujourd'hui, c'est vraiment un rapport aux gens. Alors, il y a des pays que je connais très bien, il y en a d'autres que je connais pas du tout dans cette région au bord de la mer Méditerranée. Mais je crois qu'on a des choses en commun. Ça peut être des façons de manger, des aliments, des fêtes, des choses qu'on va fêter, qui ont donné des traditions, des façons de faire société qui peuvent être différentes, mais qui ont vraiment un point commun. Et je sens que je partage quelque chose avec des gens dans cette région, que je partage parfois des références culturelles, ou alors des références que je ne partage pas du tout, mais quand je les apprends, j'y trouve du sens par rapport à mon histoire personnelle. Pour moi, c'est ça aujourd'hui, la Méditerranée, c'est vraiment un groupe de gens, un groupe immense, hein, de gens, de sociétés qui ont plein de choses à partager et avec lesquelles on trouve beaucoup de points communs finalement.
Et qu'est-ce qui t'a amené justement à réfléchir à ce projet qui est 1538 Méditerranée ?
Pour moi, 1538, en fait, c'est un constat des années passées sur le terrain, des rencontres avec des journalistes, des chercheurs, des gens qui tournent autour de la pensée, d'une narration qui me semblait plus équilibrée, plus humaine sur la Méditerranée. Donc voilà, c'est venu de ce réseautage de gens divers et variés qui parlaient polyglottes, qui parlaient plusieurs langues et qui avaient l'ambition de vivre ensemble surtout, de se comprendre dans toutes les rives de la Méditerranée, de pouvoir ancrer leur culture méditerranéenne dans du sens.
Et si on questionnait la Méditerranée ?
Ya oukht l'aziza, kayfa ya'ishoun as-souriyin l'yawm ?
Comment je fais pour transmettre ma nationalité à mes enfants ?
1538, c'est un nouveau site d'info, de nouveaux regards.
Comment fonctionne ton pays pour encontrer une chica ?
Journaliste, artiste, chercheur, citoyen.
Si on finit qu'il n'y a plus de poisson, c'est fini pour nous, hein, ça veut dire que c'est la fin.
Des rencontres et un réseau avec vous.
Alors, c'est quoi 1538 Méditerranée ? 1538 Méditerranée, c'est un média qui aujourd'hui existe sous deux formes, site internet et une newsletter hebdomadaire, mais qui a pendant un temps existé aussi sous forme de revue annuelle. Et l'objectif de ce média, c'est d'informer sur l'actualité des sociétés de la région méditerranée, donc de tous les pays du pourtour méditerranéen, avec comme spécificité de donner la parole aux différentes sociétés qui sont touchées par une question similaire. Par exemple, on a travaillé sur le réchauffement climatique, et nous, notre positionnement, c'est de dire si la mer se réchauffe, il va y avoir des conséquences pour les poissons, à la fois sur la rive plutôt sud, comme en Algérie ou au Maroc ou en Tunisie, mais aussi sur la rive nord, en Italie, en Grèce, pareil au Liban, et que donc, comme on va être tous confrontés au même réchauffement de la même mer, l'idée, c'est de demander à différentes sociétés comment vous informer sur ces questions, quels problèmes ça peut poser, quelles solutions vous trouvez. Et notre ligne éditoriale, c'est de dire que dans les solutions trouvées dans d'autres pays de la région, on peut trouver des éléments qui peuvent nous-mêmes nous aider. On peut bénéficier de ces solutions-là. Contrairement à aujourd'hui, la façon dont globalement les médias francophones fonctionnent, quand on va traiter d'actualité d'un pays étranger, on va la séparer de ce que nous on vit. Si vous, peu importe le média en fait que vous consommez, hein, que ce soit un journal, la télé ou la radio, on va avoir une rubrique info étrangère. Donc vous allez avoir un onglet Afrique, et dessous vous allez voir Tunisie, et vous allez voir la question en Tunisie traitée du réchauffement climatique, et par exemple de l'impact du réchauffement climatique sur la pêche ou sur les oliviers. Et il va très rarement, mais vraiment très très rarement, y avoir un article qui va permettre de faire le lien entre ce qui se passe au Liban sur cette même question et ce qui va se passer en Tunisie. De la même manière qu'il y a très souvent l'idée que l'Occident va être en avance sur certaines questions par rapport à une rive de la Méditerranée qui va être plus au sud ou plus à l'est. Et on ne va pas se donner la possibilité de dire que les solutions peuvent venir de l'est ou du sud. On va considérer que c'est souvent au nord de la Méditerranée que des solutions existent. Et encore, c'est rarement... par exemple, je réfléchis aux médias francophones, on envisage rarement ce qui se passe en Espagne comme étant une possible solution pour des problèmes qu'on peut avoir en France. Donc nous, notre ligne éditoriale, c'est vraiment de dire on peut apprendre les uns des autres et c'est important de savoir ce qui se passe dans d'autres pays parce qu'il y a des problématiques qu'on a de façon commune, que ce soit des problématiques positives ou des problématiques négatives.
Le sous-titre de 1538 Méditerranée, c'est mieux se comprendre. Pourquoi ?
Mieux se comprendre, qu'est-ce que ça veut dire ? Mieux se comprendre, c'est un peu symbolique. C'est parce qu'en fait, on vit les uns à côté des autres, hein, quand même. C'est nos voisins. Il y a moins de distance entre l'Espagne et le Maroc qu'il va y avoir entre un Français qui habite dans le sud et un Français qui habite à la pointe nord de la France, ou alors un Français qui habite dans un département d'outre-mer. Donc l'idée, c'est de dire qu'on est quand même proche et que la mondialisation fait qu'on voyage. Donc aujourd'hui, il y a des flux de gens qui passent leur temps à aller en Méditerranée, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, que ce soit pour des raisons familiales, que ce soit pour des raisons professionnelles, que ce soit pour des raisons de tourisme. En fait, c'est une région où tout le monde bouge et en même temps, on se connaît très mal. Si on se base sur l'actualité la plus chaude du moment, clairement, on a un souci de compréhension de la réalité de la Palestine. Ça, je pense qu'on peut... dans le nord de la rive méditerranéenne, on ne connaît pas la réalité de la Palestine. Donc après, du coup, on a un peu du mal à comprendre certains choix faits par les sociétés. Et je pense que l'autre exemple assez flagrant, c'est l'Algérie. Dans le discours médiatique francophone aujourd'hui, on voit bien que les journalistes et les gens qui prennent la parole, donc les experts, les spécialistes, n'ont aucune idée de comment réfléchit, de comment pense, de quelles sont les priorités dans la société algérienne. Et pourquoi c'est important ? Bah, si on ne comprend pas nos voisins, en fait, on va juger les décisions qu'ils prennent. C'est-à-dire on va les mettre sur une échelle de bien ou mal. Ça, c'est bien, ça, c'est mal. Sauf que si on cherche à comprendre la raison pour laquelle les gens font les choses, on arrive à mieux discuter, en fait. Tout simplement, c'est pas moi qui ai inventé ces réflexions-là. C'est des réflexions qui sont à la base de ce qu'on appelle la communication non violente. C'est-à-dire que si on comprend ce qui va motiver les besoins de notre interlocuteur, on a moins tendance à être dans une réaction violente derrière. Et donc mieux se comprendre, c'est dire ben, on ne peut pas analyser les décisions ou les phénomènes qui se passent dans d'autres sociétés si on ne comprend pas ces autres sociétés. Et ensuite, si on se comprend, et ben, on peut faire du lien plus facilement.
Avec une volonté au cœur des dossiers, croiser les regards, pourquoi c'est important ?
Croiser les regards, en fait, c'est la base de mieux se comprendre. C'est-à-dire que si on prend une question... peut-être une question assez facile qui va être le réchauffement climatique, parce que ça, vraiment, c'est l'une des grosses thématiques qu'on va avoir en commun. Hein. On va vivre la même chose. Par exemple, si on a un réchauffement qui va détruire une partie de la production des oliviers, mais ça marche aussi pour les orangers, et qu'on est dans un pays où cette production, elle fait vivre, c'est le cas de l'Espagne, un certain nombre de professionnels qui ont des grosses usines, qui contribuent aux taxes, aux impôts, qui emploient des gens. On ne va pas prendre la même décision, pour lutter contre le réchauffement climatique qu'un pays où l'agriculture des oliviers, l'exploitation des oliviers est une exploitation familiale, où c'est un revenu en parallèle, où ces gens contribuent peu à l'impôt parce qu'en fait le revenu est vraiment minime et c'est jamais organisé en très grande entreprise. Donc c'est ce qui va expliquer qu'un pays comme l'Espagne ne va pas prendre les mêmes décisions face au réchauffement climatique qu'un pays comme l'Algérie. Et c'est aussi ce qui va faire que en Algérie, les mesures d'adaptation sont moins urgentes et moins globales, parce qu'elles vont être beaucoup liées à des comportements de petites entreprises familiales, que l'Espagne, où on est sur des énormes exploitations d'oliviers, qui sont régies par des normes plutôt de production intensive, et donc c'est pas du tout le même rapport. Et donc on ne peut pas, même si les infos de base sont les mêmes, qui sont que les températures augmentent, les précipitations diminuent. L'Espagne a vécu une sécheresse terrible pendant plusieurs années. En fait, même si le problème de base est le même, on ne peut pas attendre des États qu'ils prennent les mêmes décisions. Et donc, on ne peut pas juger une politique d'adaptation contre le réchauffement climatique si on se base juste sur les données scientifiques de réchauffement climatique. Il faut se baser aussi sur comment fonctionne la société, à quoi ressemblent les exploitants, en fait, tout simplement, et surtout, qu'est-ce qui est important pour les pays. Je me souviens d'un dossier qu'on avait fait sur 1538, sur la question de la pêche et de la consommation de poissons. J'avais discuté avec un expert algérien qui disait, en fait, il ne faut pas appliquer votre grille de lecture de pays européens qui veulent réduire la consommation de poissons, réduire la pêche, et considérer que il y a des choses comme la création de bassins artificiels où on va mettre des poissons d'élevage en Algérie comme des choses négatives, parce que n'oubliez pas que nous sommes dans un pays où, en moyenne, les Algériens n'ont pas leur ratio préconisé par les Nations Unies de protéines dans leur repas. C'est-à-dire qu'on est dans une société où on n'est pas en surconsommation de protéines. Donc il y a besoin de permettre aux habitants de consommer plus de protéines. C'est pas du tout le cas dans un pays au nord de la rive de la Méditerranée. Et donc on ne peut pas juger comme étant négative une politique. Quand je dis on ne peut pas juger, c'est en tant que journaliste. L'idée, c'est de dire quels sont les avantages, les bénéfices que permet une politique de création de bassins artificiels d'élevage de poissons, même si, effectivement, il y a de la pollution qui est créée par ces choses-là. Qu'est-ce que ça apporte aux sociétés? Ça a un apport en protéines dans leur alimentation. Et ce sont des moments où, en tant que journaliste, on doit réfléchir au fait que on n'a pas forcément en tête tous les enjeux dans les sociétés sur lesquelles on travaille. Croiser les regards, ça permet ça. Ça permet de comprendre que ailleurs, il y a d'autres enjeux. Ça permet de comprendre que, par exemple, quand un pays est au début d'un processus de privatisation des écoles et de système scolaire à double vitesse, si on donne la parole à un expert libanais, il va avoir beaucoup de recul sur cette question-là, puisque le Liban est un pays où la question de l'accès à l'école publique ou l'accès à l'école privée est une question importante depuis longtemps. Il y a d'autres pays en Europe qui le découvrent un peu. L'idée, c'est de se dire que si on croise les regards, en fait, on va apporter une information supplémentaire, un angle supplémentaire au lecteur. Et c'est hyper important. Et puis surtout, dans la vie, on n'est pas obligé de tous penser pareil. L'ouverture, ça permet d'avoir d'autres modes de pensée, d'autres idées, et ça fait du bien.
Pour 1538, tu as fait une série sur les mémoires de la guerre en lien avec ce qui se passe au Liban et en Palestine. Mmh. Qu'est-ce que tu peux nous dire de cette série et en quoi ça fait écho justement à ce regard que tu veux porter aussi sur la Méditerranée à travers 1538?
Ben, pour être plus précis, c'est la mémoire, ce que j'appelle la mémoire des conflits, parce que c'est une ère qui est conflictuelle, mais qui a surtout été conflictualisée au-delà du conflictuel. C'est-à-dire que c'est toujours des empires extérieurs qui ont fomenté et qui ont travaillé le corps méditerranéen pour que les gens se battent. Et à travers ces histoires, il y a des poches d'humanité comme le Liban. Ce côté multiconfessionnel, c'est aussi une poche qui a permis à des confessions, à des ethnies, à des clans, de pouvoir construire un imaginaire commun. Mais à quel prix ? À quel prix ? Et c'est pour ça que, pour moi, La mémoire des conflits était un titre évocateur des Arméniens qui viennent s'installer, par exemple, au Liban. Quelle est leur histoire ? Comment leurs grands-parents, ceux qui ont souffert de cette déportation, de cette immigration forcée, ont pu se reconstruire dans un autre univers ? Et comment ils l'ont transmis à leurs enfants ? Et à l'aune de ce qui se passe, par exemple, en Syrie, en Palestine, au Yémen et ailleurs, parce que la mémoire des conflits, c'est aussi la mémoire des conflits en Europe, c'est la mémoire des conflits dans le monde entier. Mais quand un conflit se passe, comment ça se réactive dans la mémoire de ces gens ? Qu'est-ce que ça produit, la guerre, dans l'historique, la narration, la transmission de ces histoires à travers les générations ? Qu'est-ce que ça produit ? Il y avait toujours cette tension de « et si ça recommence ?» Et les Méditerranéens ont ça en eux. Et c'est ça que je veux interroger. Et si ça recommence ? Mais si on interroge, pour moi, si on n'interroge pas la mémoire, si on ne met pas ça sur la table, si on ne le discute pas entre Méditerranéens, on ne peut pas s'aventurer à dire « ah, mais l'Arménien, il est comme moi, le Palestinien, il est comme moi, la Syrien, il est comme moi ». Comment on fait pour que ça ne revienne plus ? Comment on fait ensemble pour que ça ne revienne plus ? Ce n'est pas pour sublimer la mémoire de la guerre, mais c'est pour l'expliciter et démontrer à travers les narrations, à travers les histoires croisées, que les séquences, le début des conflits fonctionnent à peu près toujours la même chose, de la même façon, que la déportation des gens fonctionne toujours de la même façon. L'accueil, l'hospitalité dans un autre pays, des fois, diffère, mais à un moment donné, on s'ancre et on se mélange pour avancer, quoi. Comment on se construit dans cet univers qui est toujours harponné par la peur de la guerre ? Comment on fait ? Et comment on vit ensemble, quoi ?
Si je devais choisir deux thématiques sur les questions méditerranéennes, évidemment, il y a une thématique qui m'est très chère, c'est la question des relations entre la France et l'Algérie. Je pense que c'est important. On sous-estime trop les liens qu'un certain nombre de gens ont avec l'Algérie, de gens qui sont en France, je veux dire, ou de gens qui sont en Algérie qui ont un lien avec la France. L'Algérie est un pays sur lequel il y a un nombre d'avions qui décollent depuis la France tous les jours. C'est un nombre impressionnant. Donc si ces avions décollent, les compagnies aériennes ne font pas ça bénévolement, c'est qu'il y a des gens qui achètent les billets d'avion. Si des gens achètent les billets d'avion, c'est qu'ils circulent en permanence. Et les gens qui circulent sont des gens qui, pour un certain nombre d'entre eux, ont une vie des deux côtés. Et donc c'est important de comprendre que le pays d'en face n'est pas juste un ennemi et de juger justement ses décisions et ses positionnements juste avec notre propre grille, notre propre regard. Il faut aussi comprendre pourquoi l'autre réagit de la manière dont il réagit. Et cette thématique, elle est importante à suivre parce que là, pour moi, on est à un moment où la non-compréhension, je ne parle pas des discours politiques qui sont une chose, qui sont des choix politiques. Je ne pense pas qu'on puisse dire que les hommes et les femmes politiques qui prennent la parole sur cette question-là ne savent pas de quoi ils parlent. Je pense plutôt au regard médiatique qui devrait prendre du recul et comprendre qu'il y a peut-être des agendas politiques qui se cachent derrière les décisions. Mais pour comprendre ça, il faut avoir une connaissance du contexte qui est large, comprendre qu'est-ce qui fait qu'un tel ou une telle va réagir d'une certaine manière. Et pour moi, la thématique à suivre, c'est l'Algérie pour éviter de se faire intoxiquer par des discours aujourd'hui qui sont vraiment très martiaux, je trouve très violents. sur la façon dont on est en relation avec un autre pays. En fait, il faut, pour moi, il faut mieux comprendre comment l'Algérie fonctionne, pour comprendre pourquoi sa diplomatie répond d'une certaine manière, et comprendre que les Algériens ne sont pas des ennemis pour la société française. Et je crois que il est important pour tout lecteur de se dire « Ok, là, j'ai lu ça ou j'ai entendu ça à la radio, c'est un peu brutal, c'est un peu violent, mais il faut que j'aille chercher un peu plus loin, il faut que j'aille comprendre pourquoi pourquoi il y a eu cette réaction, pourquoi il y a eu ce problème, est-ce que c'est tout à fait comme on me le présente, est-ce que les personnes de l'autre côté n'ont pas un autre point de vue sur les faits qu'on présente ?» Et ça permet de faire descendre la pression. Et je crois que c'est ce dont on a besoin aujourd'hui. Il faut absolument faire descendre la pression, tout simplement parce que cette question des relations franco-algériennes, en fait, c'est la vie d'un certain nombre de gens là qui est en jeu. On n'est pas en train de jouer sur, on n'est pas en train de jouer sur un rapport de force. On n'est pas dans un combat de boxe où il y aura un gagnant, un perdant, et puis ça s'arrête, et puis il y a un autre combat de boxe la semaine prochaine. Là, on parle de familles entières qui sont des deux côtés, de gens qui ont du boulot, qui créent des entreprises. Et des deux côtés, enfin, ça va dans les deux sens. De familles qui sont binationales. C'est le nombre de gens qui vivent ou qui ont des relations des deux côtés, que ce soit des relations professionnelles, personnelles, intimes, familiales, historiques, de coopération, d'échanges, de formation. C'est immense, c'est immense. Et en fait, on va, en ne voulant pas comprendre et en ne voulant pas faire baisser la pression, on met en jeu tout ça. Donc pour moi, ça, c'est la première thématique à suivre absolument. La deuxième, peut-être moins connue, mais qui, je pense, vaut le coup qu'on y jette un œil, c'est la question de l'école. C'est la question de... on est dans une région où la scolarisation des enfants dans l'histoire a évolué. Et aujourd'hui, il y a une évolution commune, vraiment, à tous les pays, qui est liée au monde dans lequel on vit. Hein. On est dans un monde ultra-libéral, et ça va avec, on assiste dans les différents pays de la Méditerranée à une privatisation de l'accès à l'école. C'est-à-dire que si vous voulez avoir accès à une bonne école qui va vous donner les moyens d'avoir le choix dans votre vie après, donc d'avoir le choix du métier, d'avoir le choix de la qualité de vie, d'avoir le choix de où vous voulez être, eh bien, en fait, il va falloir aller dans une école privée. Donc, ça crée des sociétés où il y a les familles qui ont de l'argent, qui peuvent se payer le privé, et des familles qui n'ont pas d'argent. Et qu'est-ce qu'on a comme avenir quand on n'a pas d'argent dans des sociétés où ben, la seule façon de s'en sortir et d'avoir un futur meilleur, c'est l'école. Je pense que c'est une question qui est sous-traitée parce qu'elle est traitée de façon nationale et elle n'est jamais traitée de façon régionale. Et là, comme je disais tout à l'heure, on a des choses à apprendre de... On a des choses à apprendre de ce qui s'est passé dans d'autres pays. Je pense à des pays comme, comme le Liban, justement. Il y a vraiment une vraie question qu'il faut qu'on se pose sur ce qu'on veut comme futur pour nos sociétés. Est-ce qu'on veut une société où, à partir du moment où les familles n'ont pas d'argent, eh ben, l'avenir des enfants, il est vraiment compromis dès le début, dès la primaire, dès la maternelle, tout simplement parce qu'on se dirige vers des systèmes où c'est pas qu'il n'y a plus d'écoles publiques, mais c'est que les écoles publiques sont dans de telles conditions que les enseignants qui ont les moyens vont ailleurs pour être plus tranquilles, pour mieux vivre, pour avoir un meilleur salaire, pour être mieux considérés. Et aussi que du coup, comme il n'y a que les enfants les plus en difficulté ou qui ont le moins d'argent qui y vont, il y a quand même une grosse propension d'élèves en difficulté eux-mêmes, ce qui ne va pas aider le système scolaire public dans son ensemble. Voilà pour la deuxième thématique.
Et quels sont les défis aujourd'hui pour gérer un média indépendant ?
Gérer un média indépendant aujourd'hui en France, c'est compliqué parce que je pense qu'on est dans une époque de recherche de modèles économiques. Mais on n'est pas les seuls. L'avantage qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a des modèles qui ont fonctionné autour de nous. Je pense à Mediapart. Mais qui sont des modèles qui ont des limites, effectivement. Donc, on peut aussi apprendre de ces limites. clairement, les limites, c'est quoi? C'est qu'on n'a pas tous l'argent de démarrer un média sans avoir aucun revenu pendant les 2-3 premières années, en fait. Je crois que le souci, il est là. C'est que démarrer un média, c'est comme démarrer une entreprise. Il faut avoir de l'argent de côté au début. Parce qu'en fait, quand on démarre une entreprise, on essaye des choses et ça ne fonctionne pas. Et donc, il faut avoir un plan B, quoi. Parce qu'à la fin du mois, il faut quand même manger, il faut quand même payer son loyer, il faut quand même nourrir ses enfants. Donc, pour moi, un média indépendant, aujourd'hui, il est fragile sur le modèle économique, sur la nécessité d'avoir un plan B économique, ce qui fait que c'est difficile de donner toute l'énergie nécessaire à la gestion et la création d'un média indépendant. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'évidemment, les sources de financement, elles sont limitées. Nous, à 1538, on a fait un choix qui fait qu'on a une partie de nos revenus qui provient de l'éducation aux médias et à l'information, parce que 1538 Méditerranée a une structure associative. Je pense que ça a ses limites, parce qu'en fait, on est assez dépendant de collectivités locales, et qu'à un moment donné, ces collectivités locales peuvent soit voir leur budget complètement réduit, c'est ce qui s'est passé cette année pour la culture. En France, nous, ça va nous impacter. Cette année, on devrait s'en sortir, mais pour l'année prochaine, on pense que ça va nous impacter. Et la deuxième question, c'est quelle indépendance éditoriale on peut avoir si à un moment on fait un dossier qui déplaît, comme on est une association et qu'on intervient en milieu scolaire dans l'éducation aux médias et à l'information, on est tenu par le fameux contrat républicain qui est signé par les associations. On est aussi tenu, c'est-à-dire que les gens qui nous donnent de l'argent sont des collectivités locales dans lesquelles il y a des élus. Donc ça ne veut pas dire qu'il y a des sujets qu'on ne fait pas, parce que nous, dans notre cas, on n'est pas à la merci d'une décision directe d'un élu, puisqu'on fait pas de, pour l'instant, on ne fait pas d'enquête politique sur les territoires locaux qui nous donnent des subventions, mais ça pourrait exister. Donc on sait qu'on est fragile. Et après, l'une des inquiétudes, je pense que pour l'instant, nous, on a été assez protégés parce qu'on est quand même, un média particulier. Ça ne serait peut-être pas les mêmes réflexions sur d'autres médias plus grands, comme je pense à Reporter ou plus locaux comme à Marseille, Mars Actu. Nous, on est un peu protégés parce qu'on n'est pas trop visible, en fait. L'une des difficultés, c'est aussi qu'on assiste aujourd'hui en France à une restriction de la liberté de la presse, à la fois dans l'accès aux sources, dans les menaces qui peuvent être faites contre les journalistes, dans le fait que la justice peut décider d'ouvrir une procédure. Là, on est aussi sur ces deux dernières années, sur la question de la Palestine, on voit de la pression en fait qui existe, qui est menée par des groupes organisés sur les réseaux sociaux qui vont essayer de faire pression sur un tel ou une telle parce qu'il a écrit telle phrase ou telle phrase, parce qu'il a dit telle phrase ou telle phrase. Et il faut imaginer que quand on dit qu'on est un média indépendant, on n'est pas une équipe complète, on n'a pas un avocat, on n'a pas un comptable, on n'a pas un entourage, un médecin du travail qui peut nous aider. En fait, si on se retrouve face à une situation comme ça, on est tout seul. Et c'est ça l'une des grandes difficultés. Aujourd'hui, nous, on n'a pas eu de gros soucis, mais si demain, on doit faire face à une procédure judiciaire, qui paye les frais? Le média n'a pas l'argent, le média n'a pas la réserve, le média n'a pas les ressources humaines en interne pour gérer une procédure judiciaire. Si demain, on a un coup de pression sur les réseaux sociaux par des activistes d'un bord ou d'un autre, parce qu'on a fait une newsletter sur la Palestine, comme on en fait beaucoup depuis 2 ans, et que ce qu'on dit ne plaît pas, en fait, on n'a pas les épaules pour gérer des coups de pression qu'ont reçus des confrères ou des consoeurs qui travaillent dans des médias bien plus gros et qui eux-mêmes sont très impactés alors qu'ils ont la structure derrière pour les soutenir. Je pense que gérer un média indépendant actuellement, c'est s'exposer à beaucoup de potentielles difficultés. Dans le meilleur des cas, elles sont potentielles, mais on sait que ça peut nous arriver assez vite. On a vu des confrères et des consoeurs souffrir de beaucoup de choses. Et je crois que l'idée, c'est la chose à laquelle il faut réfléchir, c'est à quel moment est-ce que l'information vaut le coup de tous ces sacrifices. C'est un peu comme les militants qui, au bout d'un moment, font un burn-out et qui se disent « oui, mais la cause n'avance pas, enfin, il faut vraiment y aller ». Je crois que nous, en tant que médias indépendants, on est toujours sur le fil entre « l'info, c'est notre métier, on adore ça, c'est important, on défend des principes démocratiques ». Et c'est aussi important, il faut continuer à le faire, et on en a besoin plus que jamais, mais on est hyper fragile. Et il y a des moments où cette question-là, elle se pose, et je pense que ce qui est important aussi, c'est que le public, le grand public, soit conscient de ça. L'idée, c'est pas de dire on est des gens à plaindre, c'est juste d'être conscient du fait qu'on est fragile. Et que des fois, on est fragile et on ne peut pas faire ce qu'on voudrait faire, ou on fait le choix de ne pas le faire parce qu'on n'est pas en état, et qu'on a peur des fragilités, qu'on a peur des conséquences, et que d'autres fois, au contraire, on a le courage d'y aller, on fait les choses, et que ça implique justement du courage.
Et pour terminer, ce podcast s'appelle « Pourquoi tu cries ?» Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui te fait crier en Méditerranée ?
Moi, je ne crie pas beaucoup dans la vraie vie. C'est peut-être un défaut, remarque. Mais je crie à l'intérieur. Et à l'intérieur, je crie parce que je veux que mes neveux, mes nièces et les enfants autour de moi vivent dans un monde où notre identité n'est pas un problème. Que ce soit l'identité, je pense à l'identité de genre, je pense au fait d'être une femme, je pense aussi au fait d'avoir plusieurs cultures, d'avoir des parents qui ne sont pas tous les deux du même pays, du coup d'avoir grandi dans des environnements différents. Moi, je crie à l'intérieur parce que je veux que mes neveux, mes nièces et les enfants qui sont autour de moi, donc les enfants de mes amis, les enfants de ma famille, que ces enfants grandissent dans un monde où tout ça, c'est plus facile que ce que ça a été pour moi. Et encore, moi, j'étais un peu plus protégée que ce que ça a pu être pour mes parents ou mes grands-parents.
Moi, ce qui me fait crier, c'est l'ignorance. C'est l'ignorance portée sur les gens qui vivent cette situation en Méditerranée, cette situation de conflit, de guerre, de massacre. Comment on arrive à effacer, nous, occidentaux, ces histoires. Parce qu'au-delà des morts, c'est un effacement de population, de culture, dans notre altérité. C'est anesthésier notre altérité, la diminuer, l'effacer pour la remplacer par du non-sens, quoi, du vide total. Et oui, c'est ça qui me fait hurler, quoi, qui me met en rage, quoi. Et il faut trouver à travers cette période douloureuse la force de continuer à réseauter, de continuer à percevoir chez les uns et les autres des personnes qui sont là, qui luttent pour leurs armes. On ne peut pas être tous sur le terrain, mais on peut tous faire quelque chose. Ça, c'est ce que j'ai appris de cette ère-là. On n'abandonne jamais le poste. On se recrée ailleurs pour aider les autres. C'est comme ça que ça marche. Comme toute la diaspora palestinienne qui travaille malgré les colibés, malgré les coups de griffe des médias occidentaux qui les oublient, qui les oblitèrent complètement de la scène médiatique. Les Syriens, c'est pareil. Les Yéménites, c'est pareil. Tous les peuples en lutte, c'est pareil. Et tous ces peuples en lutte-là, eh ben, c'est nous aussi. Malgré qu'on ait le sceau de l'occidentalisme sur la tête ou dans notre comportement, eh ben, il faut qu'on fasse un pas de côté, qu'on sorte de notre civilisation de confort pour épouser cette humanité, parce que c'est la nôtre, c'est nos enfants qui meurent. C'est pas que moi, je ne suis pas que français. Je suis d'abord humain, et ces gens qui meurent malencontreusement, de façon horrible, eh ben c'est mes enfants qui meurent. Donc du coup, Mon espoir est dans la lutte. Mon espoir est dans la lutte aujourd'hui. Je hurle, mais j'ai de la peine en moi. Ça me travaille. Des fois, j'ai l'impression de m'effondrer, d'être détruit par ce qui se passe. Parce que je perds les proches, mes proches, les miens, en humanité. Mais voilà, il faut tenir debout, il faut avoir la tête haute et lutter. Il y a que ça à faire, lutter.
Merci.
C'était Pourquoi tu cries, un podcast d'Approche Culture et Territoire, réalisation Colline Charbonnier.